dans ce culte du dimanche 16 mars, parce qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui, parce qu'on est dans la saison des cultes de guérison, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on voie 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc là, Timothée, qu'on appelle un livre de la Bible 1 Timothée, par exemple, c'est la première lettre que l'apôtre Paul a adressée à Timothée dans la Bible. Et j'aimerais qu'on voie un petit peu ce qu'il a à dire à ce sujet. Vous êtes connecté, vous prenez note un peu? Superbe, 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 superbe. Alors, donc là il dit cela, donc il vient de donner quelques instructions sur comment prier, et il dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, il précise, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Donc il explique, il veut, vous comprenez? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, Dieu, contrairement aux idées reçues, ne contrôle pas tout ce qui se passe. Ça, vous devez le comprendre, n'est-ce pas? Les choses qui se passent dans le monde ne sont pas nécessairement l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, souvent, elles ne le sont pas, hein, soyons en passant. Hein. Tout ce qui est des destructions, tout ce qui est du péché, la mort, la maladie, toutes ces choses ne viennent jamais, jamais, jamais de Dieu. Donc là, on voit que Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et si on regarde vraiment dans la précision du texte original grec, il parle de chaque homme d'une manière individuelle. Vous voyez un peu l'idée? Dieu veut que tout homme soit sauvé, numéro un, et numéro deux, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que non seulement il est exclu de la défaite, c'est ça être sauvé en fait, hein. Ça veut dire être exclu des choses que Dieu n'aime pas. Donc qu'est-ce que Dieu n'aime pas par exemple? Dieu n'aime pas la maladie, d'accord? Donc quand on est sauvé, on est exclu de la maladie, vous voyez? Dieu n'aime pas la pauvreté, donc quand on est sauvé, on est exclu de la pauvreté. Vous voyez un peu l'idée? Dieu n'aime pas l'échec. Dieu n'aime pas l'improductivité. Donc quand on est sauvé, on est exclu de ça. Mais il aimerait qu'on aille plus loin et qu'il arrive à une connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'il comprenne la vérité. Si vous regardez un passage très intéressant des Écritures, il y a Jésus qui est amené devant Ponce Pilate. Ça veut dire quelque chose, Ponce Pilate, hein. C'est celui qui s'est lavé les mains et qui a livré Jésus aux Juifs pour être crucifié. Ça veut dire quelque chose, hein. Pour le contexte, c'est l'homme qui a, entre guillemets, permis à Jésus de mourir. C'était une espèce de gouverneur romain. Pour ceux qui ont suivi les cultes de guérison hier, c'était très intéressant parce que Pasteur Chris a expliqué justement que même l'Ancien Testament parlait du fait que les Romains allaient crucifier Jésus-Christ. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc il dit ça, il arrive, Jésus arrive devant cet homme-là et il dit, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. C'est quand même fou de dire une chose pareille. Il n'y a aucun homme qui peut parler comme ça. Si ce n'est Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est un point intéressant que je trouve. Si vous étudiez un petit peu, je réfléchissais à ça avec une connaissance. Jésus-Christ, c'est le personnage ultime de la bonté et de la perfection, au point que même les autres religions essayent de le voler et de se l'approprier. Vous avez remarqué ça? C'est le seul personnage religieux que les autres religions essayent de s'approprier. Les musulmans essaient de s'approprier Jésus-Christ en disant que c'est juste un prophète. Même les bouddhistes disent que c'était une personne qui donnait des paroles de sagesse. Même les hindouistes, certains les considèrent comme un espèce de semi-dieu Jésus-Christ, parce qu'ils ont plein de dieux, la culture hindouiste. C'est le seul personnage qui est interprété comme étant la vérité parfaite et la perfection humaine, et la perfection divine dans un corps humain. C'est intéressant quand même ça, hein. Juste ça devrait nous faire réfléchir sur l'origine du Christ. Donc Jésus-Christ est cette personne qui est la vérité. Regardez, donc Jésus-Christ arrive devant Ponce Pilate. Et là il dit, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Et là, Ponce Pilate lui dit, imagine un peu cette scène. Donc il y a Jésus-Christ qui est dans une perfection absolue. Jésus-Christ était l'incarnation de la bonté et de la réussite. Vous comprenez ça? Vous suivez ou pas? Jésus-Christ était l'incarnation de la perfection. C'est-à-dire que partout où Jésus allait, la perfection suivait. Partout où Jésus allait, la prospérité suivait. Là où Jésus allait, il y avait des miracles qui se produisaient instantanément. Des foules venaient à lui pour être guéries, pour être délivrées, et même des morts étaient ressuscités. Et des gens qui étaient morts depuis 3 jours, Jésus les ressuscitait. Et donc cet homme se tient devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, la Bible dit qu'à un moment, sa femme vient le voir. Sa femme déboule de nulle part. Elle le prend à part. Elle dit, ne condamne pas cet homme parce que j'ai eu un rêve sur lui. En fait, cette femme apparemment était proche du Seigneur. Elle a eu un rêve où Dieu montrait à la femme de Ponce Pilate que Jésus-Christ était bon. Et donc Ponce Pilate se trouve dans une situation très dure parce qu'il a cet homme en face de lui qui, selon le droit romain, ne pouvait être condamné. Voyez un peu, il n'avait rien fait qui, légalement parlant, faisait qu'on pouvait condamner cet homme. Donc Jésus se tient comme ça devant Ponce Pilate, et Ponce Pilate dit, mais j'ai rien à lui reprocher. Vous voyez un peu l'idée? Donc il est là, mais je peux rien faire pour enfin je ne peux pas condamner cet homme, il n'a rien fait. Et ensuite, ils disent, selon votre droit à vous, parce qu'il faut comprendre quelque chose de culturel à l'époque. Donc il y avait le royaume d'Israël, n'est-ce pas? Et ce royaume était sous domination romaine. Donc les Romains avaient pris possession et pris contrôle de ce pays. Et donc Pilate, il dit, j'ai rien à faire avec celui-là, j'ai rien à trouver de le même pouvoir le condamner. Il n'y a aucune imperfection dans cet homme. Mais Jésus lui a dit un truc à un moment, il dit, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Et là, Pilate, il répond, qu'est-ce que la vérité? Dans le sens, est-ce qu'il y a même une vérité absolue? Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 14 et verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'avait parlé comme ça, de dire que je suis le chemin. Il n'a pas dit j'ai un chemin, il a dit je suis ce chemin, cette vérité et cette vie. Et donc, on doit comprendre que Jésus était cette incarnation parfaite. Et Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'œuvre du Christ était constituée pour arriver à cette fin. On est d'accord jusqu'ici, n'est-ce pas? Christ est venu sur terre pour manifester la volonté du Père. Et la volonté, regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Qui avait parlé comme ça? Il a dit, je suis la vérité. Pas j'ai une vérité, pas je comprends la vérité, ou pas j'ai entendu la vérité. Il a dit, je suis cette vérité. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit est vrai a été incarné en Jésus-Christ. Et là, il se tient devant Ponce Pilate. Et Jésus veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si on peut juste prendre 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Parce que j'aimerais qu'on parle justement de ce ministère que Dieu exerce. Il dit, le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Ne voulons pas qu'aucun périsse. C'est un peu tourné bizarrement parce que c'est du vieux français. Mais il ne veut qu'aucun périsse. Donc Dieu a en tête le salut de tous les hommes. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qu'on parle du salut? On ne parle pas d'éviter l'enfer. C'est pas ça le salut. Le salut consiste à être identifié avec qui est Christ pour vivre dans la nature de Dieu. C'est ça le salut. Et donc là, il dit, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Jésus n'exagérait jamais, Dieu n'exagérait jamais. N'est-ce pas? Si Dieu a dit tous, ça veut dire tous. On est d'accord. Pourtant, Dieu a dit une chose intéressante. Même Jésus a dit, beaucoup passeront par le chemin qui mène à la destruction. Donc comment est-ce que Dieu peut dire d'un côté, je veux que tout le monde soit sauvé, et de l'autre côté dire, beaucoup vont aller à la destruction quand même? Parce que ce que Dieu veut n'arrive pas automatiquement. Dieu nous a donné un libre arbitre selon lequel on doit vivre. Et ça explique aussi pourquoi, vous savez, j'ai des discussions avec pas mal d'autres religions, ou plutôt personnes d'autres religions. Et je dois dire qu'il y a quand même une espèce d'incohérence un peu profonde et constante. C'est-à-dire, par exemple, si une personne meurt d'une maladie, ils disent c'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez? Dieu a tué cette personne via une maladie. Par contre, si la personne meurt, ou par exemple, même encore si elle meurt dans le cadre d'une guerre sainte, ils vont dire, c'était ce que Dieu voulait. Par contre, si la personne meurt assassinée, tout d'un coup, c'est plus ce que Dieu voulait. Et Dieu condamne ça. Vous voyez un petit peu l'incohérence? Pourquoi est-ce que d'un côté, Dieu appliquerait un libre arbitre et pas de l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu contrôlerait la maladie et pas le comportement des gens? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il dit que Dieu veut que tous soient sauvés, mais ça n'arrive pas automatiquement. Pourquoi? Parce que ça prend du libre arbitre, vous comprenez? Dieu ne force personne à marcher dans la réalité et dans la vérité. Il y a des gens qui marchent dans le mensonge constamment. Il y a des gens qui marchent dans la méchanceté constamment. Il y a des gens qui marchent de maladie en maladie en maladie en maladie. Vous avez remarqué? Il y a des gens qui sont constamment malades. Vous pensez que c'est Dieu qui est derrière ça? Non. Dieu n'est pas derrière ce genre de choses. Jamais. Et si on croit que c'est Dieu qui est derrière, on va rien faire pour essayer d'en sortir. C'est aussi ça, un des gros problèmes de cette idée que Dieu envoie des malheurs, ou que Dieu permet des malheurs, ou que Dieu nous envoie quelque chose pour nous apprendre quelque chose. C'est que si c'est vraiment Dieu qu'on voit la maladie ou la destruction ou la pauvreté, qu'est-ce qu'on ferait de sortir de cette maladie, de cette destruction, de cette pauvreté? Ça n'aurait pas de sens, on est d'accord. Mais Dieu n'est pas derrière. C'est pour ça qu'on doit se battre contre ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit sortir de ces choses-là. Regardons juste encore, s'il vous plaît, Ézéchiel 33, 11. Regardez, c'est très intéressant. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant. Donc là, il dit, est-ce que vous croyez vraiment que je prends plaisir à la mort du méchant? Les gens méchants, est-ce que vous pensez vraiment que je prends plaisir à leur destruction? C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, est-ce que vous croyez vraiment que je jouis à l'idée que des gens sont détruits, que les gens méchants sont détruits? Regardez, il dit, mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. Donc Dieu veut que le méchant se tourne de sa voie. C'est ce que Dieu veut pour les gens. Dieu veut que les... Et vous savez, c'est intéressant parce que le terme méchant, on l'utilise, nous, pour parler d'une personne qui a exprimé une méchanceté. Mais quand Dieu parle du terme méchant, il entend de marcher dans le péché, quoi que ce soit. Donc par exemple, quand il dit une personne qui a l'habitude, par exemple, d'être dans la pauvreté, pour Dieu, il faut que cette personne se détourne de la pauvreté pour marcher dans la richesse. Vous voyez un peu l'idée? Et là, il continue, il dit... Qu'ils vivent, détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc il dit, pourquoi est-ce que vous mourriez alors que Dieu a quelque chose pour vous? Pourquoi est-ce que vous passeriez à côté de ce que Dieu a pour vous? C'est ça qu'il encourage. Et donc on doit comprendre par ces versets-là que Dieu veut que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3, s'il te plaît, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Vous allez voir, il dit... Dieu a tant aimé le monde. Notez qu'il a dit le monde. Il n'a pas dit il a aimé les futurs chrétiens. Il a dit il a aimé le monde, les gens. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, notez bien encore, quiconque, il y a cette idée que Dieu a réservé le salut qu'à certaines personnes. C'est faux. Dieu n'a jamais dit que cette personne sera sauvée et pas celle-là. Dieu veut que tous soient sauvés. Et il dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une vie éternelle ou la vie éternelle. Regardez encore le verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu a prévu un salut pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est intéressant parce que quand on dit sauver, on pense sauver de l'enfer. Non, 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 Dieu n'est pas venu nous sauver de l'enfer. C'est pas ça son objectif. Alors bien sûr, ça fait partie du paquet, mais Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu est venu pour qu'on puisse s'identifier à lui et avoir la nature de Dieu en nous. C'est pour ça que Dieu est venu. Dieu veut que tous soient sauvés. Donc ça, j'aimerais que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Dieu veut toute personne que vous croisez, toute personne que vous appréciez ou n'appréciez pas, toute personne qui vous cause des problèmes ou pas, toute personne qui se comporte justement envers vous ou pas, Dieu veut que chaque individu soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est intéressant parce qu'il fait la différence entre être sauvé juste sauver, c'est-à-dire hein, croire en Dieu, et ensuite parvenir à la connaissance de la vérité. C'est deux éléments différents. Et Dieu veut ça pour tous les humains. Vous voyez ça? Tous les gens que vous croisez dans la rue, tous ces gens-là que vous voyez, vous-même, Dieu veut ça. Mais le fait que Dieu veuille quelque chose, ne veut pas dire que cette chose arrivera magiquement. Vous comprenez ça? Ça voudrait dire que Dieu a prévu quelque chose. Et cette chose peut ne pas arriver, vous comprenez? Dieu veut qu'on soit sauvé, mais c'est à vous d'accepter le salut. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui force. Regardez encore. Ce profond et perpétuel désir divin est exprimé et manifesté par le Saint-Esprit. On doit comprendre, parce que moi je voulais vous parler aujourd'hui de comment gagner les gens pour Christ. Regardons le prochain verset, Jean 16, 8 à 10. Jean chapitre 16, verset 11. Regardez ce que l'Écriture dit. C'est pour ça que vous devez vous laisser influencer par la parole de Dieu. Donc là, c'est Jésus-Christ qui parle. Et le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, d'accord? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Jésus est Dieu qui a pris une forme humaine. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'il était juste un prophète, par exemple. Jésus n'est pas juste un prophète. Il est Dieu qui a pris une forme humaine pour nous sauver. Et donc là, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand celui-là sera venu, donc il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Donc il dit, le Saint-Esprit va venir. Et il va convaincre ces gens que moi, je veux qu'ils soient sauvés. Le Saint-Esprit va convaincre ces gens. Regardez, verset 9. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Notez quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui demandent des fois, est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est pas péché? Est-ce que ça c'est autorisé? C'est pas vraiment une question dans le christianisme. Il n'y a pas une liste de choses autorisées ou pas. Par exemple, est-ce que fumer une cigarette est un péché? Qu'est-ce que vous pensez? L'acte en lui-même? Non, ça dépend ce qu'on en fait. Imaginez que vous voulez absolument parler du Seigneur Jésus à quelqu'un et que la seule manière, c'est d'aller fumer une clope avec cette personne. Alors, je n'encourage pas du tout à avoir des dépendances, mais notre corps est tout à fait capable de, par exemple, gérer une cigarette par an. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un truc que je suggère parce que ça reste toxique, n'est-ce pas? Mais je suis en train de dire, ce n'est pas le problème, la question c'est pourquoi on fait ça? Vous voyez un peu l'idée? Et là, il dit deux péchés. Et le seul péché que Dieu retient contre quelqu'un, c'est qu'il a refusé de croire en Jésus-Christ. C'est intéressant, ça, hein? N'importe quel péché peut être absous comme ça. Par contre, le fait de refuser Jésus-Christ, ça, c'est un péché impardonnable. C'est d'ailleurs ça le blasphème du Saint-Esprit. Pour ceux qui se posent la question, des fois, il y a un terme dans la Bible qui s'appelle le blasphème du Saint-Esprit. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit, c'est de refuser de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui convainc de péché, justement. Si on peut avoir le verset 10, s'il vous plaît. Il dit, de justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Et ensuite, il dit de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Intéressant, Jésus a dit que le chef du monde, c'est le diable. Ah, c'est intéressant ça, hein? C'est pas Dieu qui contrôle toutes les choses dans le monde. La plupart des choses horribles qui se produisent dans le monde, les guerres, les destructions, les viols, les péchés, les gens qui se font voler quelque chose, c'est le diable qui est derrière ça. C'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est pas Dieu qui a fait ça pour t'apprendre une bonne leçon. Non! Dieu n'est pas comme ça. Dieu a sa part. Dieu a une... S'il y a quelqu'un qui avait une Bible là, physique, ça m'aiderait bien, mais tout le monde est sur son téléphone. Il y a une Bible qui vous a été donnée, voyez? À l'humanité. Et cette Bible-là est l'instruction de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous envoyer des malheurs pour vous apprendre quelque chose. C'est faux. Si vous croyez que Dieu envoie un malheur, vous allez croire que c'est Dieu qui est derrière. Et pourquoi s'en sortir alors? Vous voyez un peu l'idée? La réflexion, elle est comme ça. Si Dieu m'a envoyé un malheur, pourquoi est-ce que j'en sortirais? Si Dieu m'a envoyé la pauvreté pour m'apprendre à bien gérer mes finances, c'est stupide. Pourquoi est-ce que Dieu enverrait de la pauvreté pour apprendre à quelqu'un à gérer quelque chose qu'il n'aurait pas? Vous voyez un petit peu à quel point c'est dénué de réflexion quand les gens disent ça? Ils disent Dieu m'a envoyé la pauvreté pour que j'apprenne à mieux gérer mes finances. Quelle finance si t'es pauvre? Il n'y a aucune finance à gérer. Non mais c'est juste illogique, vous comprenez? Dieu serait plutôt envoyé plein d'argent pour qu'on apprenne à le gérer. Et le problème, c'est que si on pense que c'est Dieu qui est derrière ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir sur notre canapé et attendre patiemment que ça passe. Alors que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Dieu a horreur de la pauvreté. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre afin que nous, par sa pauvreté, nous devenions riches. Et quand vous regardez en contexte, il parle de richesse matérielle. Mais de nouveau, quelle est l'intention derrière des richesses matérielles? Est-ce que c'est juste avoir de l'argent pour satisfaire ses besoins et aider les autres? Ça, c'est bien. Par contre, si c'est avoir de l'argent pour satisfaire tous ses désirs charnels de voitures et de trucs de marque et tout, Dieu n'approuve pas ça non plus. Vous voyez un peu l'idée? Ok, parfait. Vous êtes toujours là? 2 Corinthiens 3, 17. Vous allez commencer à comprendre quelque chose parce que le Saint-Esprit est celui qui exerce le ministère de la conversion. C'est le Saint-Esprit qui exerce la compréhension de Dieu chez les gens. C'est grâce au Saint-Esprit que les gens se tournent de leur mauvaise voie de manière générale et se tournent vers Christ. Vous suivez jusqu'ici? C'est grâce au Saint-Esprit. Il dit, or le Seigneur est l'Esprit. E-S-T. Pas est comme addition. Être. Donc il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc il nous dit, dans le Nouveau Testament, celui qu'on appelle le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. Vous voyez jusqu'ici? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et vous savez quoi? Quand il dit l'Esprit du Christ, ça parle du Saint-Esprit aussi. C'est pour ça qu'on dit le Seigneur Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit aussi. C'est la même personne. C'est juste que l'Esprit de Dieu vivait dans le corps de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, l'Esprit de Dieu a été répandu sur l'ensemble de l'humanité. Et maintenant, vous pouvez avoir Jésus-Christ qui vit en vous. Et il dit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Juste pour le contexte, pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. Quand il parle de liberté ici, il ne parle pas de liberté des démons, hein, ou des libertés de la maladie ou comme ça. Il parle de la liberté de comprendre les Écritures. C'est ça qu'il parle. Où vous pouvez comprendre la Bible d'une manière profonde. C'est beau ça, hein? Marc 16, 15 à 20. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez être constamment, constamment, constamment dans une conscience de qui vous êtes, dans une conscience de qui Christ est, dans une conscience de ce que Dieu veut pour vous et pour votre vie. Donc là, c'est Jésus-Christ qui parle et il dit « Allez dans tout le monde » et prêcher l'évangile à toute la création. Oh, regardez, il dit toute la création. Il n'a pas dit à tout être humain. Il a dit à toute la création. Pourquoi? Parce que tout entend la voix de Dieu. Amen. Continue ça. Et il dit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Ensuite, il dit, et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Écoutez ça. Le Seigneur coopérant avec eux. C'est qui le Seigneur? On l'a vu. C'est l'Esprit. Donc il dit l'Esprit de Dieu coopérait avec eux en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc il dit, des signes accompagnaient ceux qui prêchaient l'évangile, et c'est le Seigneur l'Esprit qui était derrière. Voyez un petit peu ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est responsable des âmes, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit coopère avec nous. Dites, le Saint-Esprit coopère avec moi. Si on peut avoir 2 Corinthiens 6, 1, excusez-moi. Regardez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Saint-Esprit est opérant dans le monde entier. Le Saint-Esprit est puissant sur tous. Mais regardez ce qu'il est écrit. Le Saint-Esprit, regardez, le Saint-Esprit exerce le ministère, et ça j'aimerais que vous compreniez, à travers nous. Le ministère du Saint-Esprit ne s'exerce pas sans la coopération des êtres humains. Le Seigneur, regardez ça. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Littéralement, quand il dit travaillant avec cette même œuvre, il explique qu'il est collaborateur de Dieu. Dites, je suis collaborateur de Dieu. Donc, il dit, nous sommes collaborateurs avec le Seigneur dans cette œuvre. Nous travaillons à cette œuvre afin que la grâce de Dieu ne soit pas en vain. Oh, c'est tellement profond. Psaume 115, verset 16. Regardez bien, regardez bien. Vous savez, c'est des passages, des écritures qui m'interpellent énormément. Pourquoi est-ce que Dieu dirait des choses aussi précises? Regardez, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc il dit, les cieux appartiennent à Dieu. Vous suivez jusqu'ici? Il dit, les cieux appartiennent au Seigneur. Ensuite, il précise, mais il a donné la terre au fils des hommes. Donc il dit, la terre a été confiée aux enfants, les fils des hommes, c'est une expression pour parler des humains. Donc il dit, les cieux appartiennent au Seigneur. Mais il dit par contre, la terre, ce qu'elle contient, les bonnes choses de la terre, les êtres humains sur terre appartiennent aux fils des hommes. Vous comprenez un peu l'idée? Genèse 1, 28, encore une fois. Donc là, il dit, la terre appartient aux êtres humains. Et c'est aux êtres humains de, oui ou non, exercer le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est pour ça que sur la même terre, avec les mêmes êtres humains, on peut avoir des pays qui sont extrêmement prospères et des pays qui sont extrêmement pauvres. Vous avez remarqué ça? C'est quand même curieux. C'est les mêmes êtres humains qui sont derrière. C'est pas une autre espèce. Hein. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des pays qui ont énormément de ressources, certains sont complètement détruits, et d'autres qui ont énormément de ressources, certains sont complètement riches. Prenez la Norvège, par exemple. Elle a du pétrole. Et elle a exploité son pétrole d'une telle manière qu'il y a un fonds qui s'appelle le fonds norvégien, je crois, qui a, à ma connaissance, des centaines de milliards de dollars dedans. Et c'est le fruit du pétrole. Et d'autres pays qui ont l'exact même du pétrole de meilleure qualité sont absolument effondrés à cause de ce pétrole. Pour l'un, ça a été une bénédiction, pour l'autre, une malédiction. Pourquoi? Parce que certains ont appliqué les principes de Dieu ou pas. C'est pas étonnant, je trouve, vous savez, que les civilisations qui se sont collées, ou les sociétés plutôt, qui se sont collées aux principes chrétiens, soient les sociétés les plus prospères, les plus libres et les plus belles qui existent aujourd'hui. C'est pas un hasard, hein, vous savez. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a des nations, presque des continents entiers qui sont basés sur des autres religions. Et la vie dans ces pays-là est absolument horrible. Incommensurablement horrible. Des endroits horribles à vivre. Si une femme sort avec ne serait-ce qu'un bout de peau qui est visible, elle peut se faire tuer. Comment est-ce possible? On doit réfléchir des fois à ça. Réfléchissons, comment ça se fait que des pays ont une liberté et une beauté de vivre énorme, et d'autres, avec les mêmes cerveaux, les mêmes deux jambes, les mêmes deux bras, exerce la destruction d'autrui, qui d'ailleurs est complètement illogique biologiquement. Détruire sa propre espèce est logiquement stupide, n'est-ce pas? Aucun animal ne pratique ça. Ça, c'est intéressant aussi. Aucun animal ne détruit sa propre espèce, vous saviez ça? L'être humain est la seule espèce animale qui fait cela. C'est intéressant ça, hein? Comment ça se fait? Qui détruisent leur habitat entier. Des questions intéressantes. Donc il dit dans Genèse, il dit, et Dieu les bénit, donc il bénit les êtres humains, il dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Donc qui c'est censé exercer le pouvoir sur terre? C'est l'homme. C'est l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui exerce le pouvoir sur terre, en tout cas pas pour l'instant. Quand Christ reviendra, là, ce sera autre chose, bien sûr. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu amener cette domination dans notre cœur. Donc, il y a un côté, l'Esprit de Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? De l'autre côté, on a cette idée que l'être humain doit contrôler ce qui se passe. Donc, quel est l'entre-deux par rapport au fait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Et pourquoi pas tout le monde n'est sauvé? Parce que c'est à l'être humain de laisser et de se donner au Saint-Esprit pour exercer ce ministère. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes un être humain comme ça. Vous êtes chez vous, posé. Vous avez domination. Dieu vous a donné une domination. Dites Dieu m'a donné une domination. Donc, vous êtes posé comme ça chez vous. Et le Saint-Esprit qui veut exercer cette gloire et qui veut amener des gens à la connaissance de la vérité comme on l'a vu, veut passer par vous pour faire ça. Le Saint-Esprit ne va pas, Dieu même dans son ensemble, ne va pas outrepasser l'autorité qu'il a lui-même donnée aux êtres humains. Notez quelque chose, Dieu reste propriétaire de la terre. Hein. C'est un contrat de bail qu'on a, hein. C'est pas un acte de propriété. On est gérant de la terre jusqu'à un certain temps donné, point. La question c'est le Saint-Esprit qui veut opérer du surnaturel dans la vie des gens. Il doit passer par des êtres humains. Pourquoi est-ce qu'il est passé par Moïse pour faire ce qu'il avait à faire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste ouvert la mer tout seul? Non mais réfléchissons à ce genre de choses. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste ouvert la mer? Ça veut dire quelque chose, hein. Donc il y a Moïse, ce grand homme de Dieu, il arrive comme ça puis il fait... Hein, d'ailleurs Moïse, marrant ça. Hein. Il regarde le peuple de Dieu puis il fait « Bon, il y a la mer d'un côté, les Égyptiens de l'autre. » Et là Moïse il dit, regardez ce qu'il dit. Il fait « Asseyez-vous, ne bougez pas !» Il dit ça, hein. Il dit quelque chose dans la Bible. Il dit « Ne bougez pas !» Et regardez la délivrance que Dieu va opérer pour vous. Et on en a fait toute une théologie chrétienne d'ailleurs, ça. Donc il dit, restez là, ne bougez pas, faites rien, regardez ce que Dieu va faire pour vous. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Dieu le corrige, il dit, pourquoi leur dis-tu de ne pas bouger? Qu'ils se lèvent et se préparent à marcher. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez ça, c'est intéressant, qui c'est qui a ouvert la mer? Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous dit quelque chose quand la mer s'ouvre en deux comme ça? Qui c'est qui a ouvert la mer? Dieu à travers Moïse, ok, qui c'est qui a une autre idée? C'est peut-être plus Moïse à travers Dieu. Qui c'est qui a ouvert la mer? Selon la Bible, qui c'est qui a ouvert la mer? Hein, vous devriez lire vos Bibles. C'est Moïse qui a ouvert la mer. Dieu l'a dit, ouvre la mer et fends-la. Donc ça veut dire que Moïse est comme ça. Ça veut dire que Dieu attendait que Moïse élève son bâton et ouvre la mer. Donc dans la tête de Dieu, c'est Moïse qui a ouvert la mer. Alors bien sûr, il a utilisé la puissance de Dieu. Mais ça reste Moïse qui a fait ça derrière. C'est intéressant ça, hein? Donc ça veut dire que, je reprends le truc, hein, on est comme ça. Oh oh, on a une situation à régler, parce que vous savez, le monde est spirituel. Tout est spirituel, même les finances. Vous savez qu'il y a un esprit derrière les finances qui fait que les gens soient pauvres et riches. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit qui est gestionnaire des finances. La Bible dit même qu'il y a des anges qui vont et qui allaient chercher les choses. Ça veut dire quelque chose, quand Jésus est né, qu'est-ce qu'une des premières choses qui est arrivée? Jésus naît. Ok? Qu'est-ce qu'ils font quand Jésus naît? Ils l'emmaillotent, vous avez déjà tous vu. Hein. Vous savez, une fois, il y avait une crèche qui avait été faite par des petits dans une école. Et ils, à la place de mettre le bœuf, ils avaient mis un cochon. Ils avaient mis un cochon qui soufflait sur Jésus. Alors quand j'ai vu ça, ça me fait un peu rire. J'ai rien dit aux petits parce que ça sert à rien de les... tout à fait faux, mais c'était assez drôle, vous imaginez? Un porc à la place du bœuf ou de l'âne. Surtout que, si vous connaissez un peu le contexte, le porc est un animal impur pour les juifs, donc ça ferait que ça rend la chose encore plus drôle. Donc il y a Jésus qui naît. Et là, il y a un truc intéressant. Vous savez, la Bible est trop précise pour être juste l'histoire d'un être humain. Donc là, les parents, souvent, on a cette image. Donc, il y a Jésus, on m'a été. Et qu'est-ce qu'il y a? Les trois rois mages qui arrivent comme ça, puis ils donnent leur cadeau. Bon, premièrement, la Bible dit nulle part qu'ils étaient trois. Hein. La Bible dit qu'il y avait trois cadeaux. Ça se trouve, ils étaient 20. On ne sait pas combien ils étaient. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la Bible, c'est clair. Les rois mages n'étaient pas là à la crèche. Ils sont arrivés quand Jésus avait 2 ans. Vous savez ça? C'est intéressant ça. Hein, la Bible est claire, c'est que quand Jésus est né, l'étoile est montée et les rois mages dans leur pays ont vu l'étoile et ils ont décidé de marcher en direction de l'étoile. Ça, je trouve très intéressant. Donc, écoutez bien. Là, il y a Marie et Joseph, un jeune couple. Marie a environ 16 ans, Joseph devait avoir la vingtaine. Et la Bible dit qu'il devait, en cas de naissance d'un premier garçon, il devait offrir un sacrifice, la Bible dit. Donc, il devait aller au temple, offrir un animal, buter l'animal, ça devait être vraiment... Beau à voir. Hein. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que la Bible précise qu'ils ont offert un oiseau à la place d'un agneau. Donc on pouvait soit offrir un oiseau, soit un agneau. D'accord? L'oiseau, c'était pour les gens pauvres. Donc Marie et Joseph étaient pauvres. D'accord? Vous suivez jusqu'ici? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les rois mages arrivent avec des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe qui valaient des millions de francs. Intéressant ça, hein? Vous voyez que c'est spirituel. Donc, à la naissance de Jésus, Dieu avait rendu disponibles ces choses-là, mais elles ont mis 2 ans à arriver. Est-ce que vous savez que Dieu a mis des choses à votre disposition qui, des fois, selon l'être humain, prennent du temps à arriver? Vous voyez? Mais c'est les êtres humains qui ont fait que ça a pris du temps, c'est pas Dieu. La myrrhe, l'encens et l'or étaient déjà présents, n'est-ce pas? Pourtant, ça a mis environ 2 ans à arriver. Intéressant, hein? Donc, vous voyez que c'est Dieu qui est derrière ça, mais c'est l'être humain qui a dû manifester cette réalité. Donc, pour redire, vous êtes chez vous comme ça. Vous priez sur une situation. Tout est spirituel. Et donc, vous commencez à prier. Imaginons que vous avez une situation à régler pour un ami. Quelqu'un doit venir à Christ. Vous voulez que cette personne vienne à Christ. Parce que vous savez, le chrétien mature ne prie pas pour ses besoins. Ça, c'est un niveau bas de christianisme. Pourquoi on priait pour nos besoins alors que Dieu a déjà répondu à tous nos besoins? Non, la Bible dit, oh, si on peut juste avoir psaume 23, l'ensemble du psaume. Regardez, donc vous êtes posé comme ça. Vous dites, j'ai quelque chose à gérer. Parce que vous voyez, vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes le roi, la reine de votre vie. C'est vous qui commandez. Et depuis quand un roi ou une reine se lève à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour perdre du temps? Et depuis quand un roi et une reine passent ses heures et des heures et des heures sur des réseaux sociaux? Après, si vous travaillez avec, c'est autre chose, mais je parle de perdre son temps sur des bêtises. Depuis quand un roi et une reine traitent les autres mal? Regardez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, c'est pour ça que quand on prie et qu'on prie pour nos besoins à nous, oh Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi ci, c'est parce qu'en fait, on n'a pas compris comment s'exerce le ministère du Saint-Esprit. Sinon, on ne prierait même pas pour nos besoins. Numéro 1, on ne doit pas avoir conscience de nos besoins. Regardez, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Le terme exact, c'est je n'ai aucune conscience du besoin. C'est ça littéralement. Je n'ai pas de besoin. Ça veut dire que tout ce qui pourrait arriver, Dieu a déjà prévu. Et ensuite, il continue, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si on peut voir le psaume 1, vous allez voir quelque chose d'intéressant parce que celui qui est enfant de Dieu est inconscient du besoin personnel. Il est complètement inconscient qu'il a des besoins. Il ne se rend même pas compte qu'il a des besoins. Regardez, bienheureux l'homme, ça s'applique assez à vous, mesdames, qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Et pourquoi est-ce que les gens s'expriment d'une manière méchante? Pourquoi est-ce que les gens sont méchants avec les autres? C'est le diable qui est derrière ça. Et la Bible dit qu'une personne qui est dans la méchanceté ne sera pas bienheureuse. Point. Regardez, bienheureux l'homme ou la femme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Regardez ce qu'il dit. Qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Regardez après, il dit, Alléluia, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Ou un arbre planté près des ruisseaux, regardez, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Ça veut dire que toi, quoi que ce soit qui commence, ça va fonctionner. Donc pourquoi est-ce qu'une telle personne aurait une conscience du besoin d'autres, du besoin personnel? Non, elle a conscience des autres. Elle veut construire les autres personnes. Elle veut s'assurer que les autres marchent dans ce que Dieu a pour eux. Vous voyez un peu l'idée? Elle veut s'assurer que cette personne-là qui marche encore dans la maladie, cette personne puisse sortir de la maladie pour marcher dans la santé parfaite de Dieu. Cette personne qui est encore dans la destruction puisse sortir de la destruction pour marcher dans la croissance. Et comment est-ce qu'il exerce ce ministère? Parce que ça prend le Saint-Esprit, on a vu, c'est le Saint-Esprit qui est derrière ça. C'est lui qui amène la conviction du péché, de justice et de jugement. Mais il passe par l'être humain. Le Saint-Esprit passe au travers de vous pour ça. Vous comprenez? Si on peut avoir Romains 8, l'ensemble du chapitre. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui vont, ils vont prier sur le besoin encore et encore et encore, et ils ont une conscience que d'eux. Ils vont rester à un niveau très bas. Et ça va marcher peut-être 1 ou 2 ans. Après, ça ne marchera plus parce que Dieu s'attend à ce que vous ayez cru dans du verbe croître. N'est-ce pas? Regardez. Ah. Donc là, c'est intéressant. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il vient de parler dans le. Là, on est dans le chapitre 8. Les chapitres ont été posés par les êtres humains après. Paul n'a pas écrit en chapitre, en verset. Vous êtes là? Soyez concentrés. Donc dans le chapitre 7, Paul parle de l'homme qu'il était sous la loi, sous la destruction, sous la mort, sous le ministère de la mort. Et ensuite, il va passer sous l'homme qu'il est maintenant en Jésus-Christ. Et il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Verset 2. Ah, voilà. Car la loi de l'esprit de vie, alléluia, dont le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la mort n'exerce plus son ministère dans vos finances, vous voyez? Ça, la mort n'exerce plus son ministère dans votre santé. Tout ce qui peut être mort dans votre vie revient à la vie en Jésus-Christ. Point de maladie. La maladie n'existe pas, en fait. Regardez. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu a envoyé son propre fils en ressemblance de la chair, de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc il dit, Christ est devenu un être humain, Dieu est devenu un être humain, afin que cet être humain détruit puisse être crucifié et qu'on puisse vivre dans la victoire. Regardez, encore, afin que le juste, que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ok, donc, ok, une seconde. Nous marchons dans l'esprit. C'est ce qu'il dit. Nous marchons, ça veut dire nous vivons dans l'esprit, n'est-ce pas? On est censé vivre dans le Saint-Esprit. Vous suivez jusqu'ici ou pas? Vous êtes censé vivre dans ce que Dieu a pour vous au travers du Saint-Esprit. Et là, il va expliquer quelque chose d'assez intéressant, verset 5. Il dit, nous marchons selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. Verset 6 qui dit, car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix. Donc il dit, cet esprit de Dieu, il veut la vie et la paix pour toute personne, et il passe au travers de nous pour ça. Parce qu'il dit, nous marchons selon l'esprit. Ok, continue encore. Regardez. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Donc continuons, parce qu'on va faire un peu vite. Ok. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc il dit, on ne peut pas plaire à Dieu si vous en êtes dans la chair. Continuons. Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui, n'est pas de lui, pardon. Verset 10 qui va dire, mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc là, il va continuer encore un moment. Vas-y. Et là, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Donc il dit, il y a un ministère du Saint-Esprit, vu qu'il vit en vous, qui va même se faire à l'intérieur de vous. Votre corps va être vivifié du Saint-Esprit. Tu peux juste avancer parce que j'aimerais juste qu'on aille dans un endroit spécifique. Je te dirai stop. 12. Parfait. Verset 14. Ouais, merci. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-ci sont fils de Dieu. Vous avez remarqué que la Bible dit aussi que les faiseurs de paix, on va les appeler fils de Dieu. Ça vous dit quelque chose ce verset? Celui qui crée la paix et sera appelé fils de Dieu. Pourquoi créer la division? Pourquoi créer la destruction? Il y a des gens qui font ça. Même des gens qui sont nés de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas dans ce que Dieu a pour eux. Regardez, parce qu'il dit après... verset 15, pardon. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père, Abba en fait ça veut dire papa en hébreu. Et il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous êtes un enfant de Dieu. Donc non seulement Dieu a donné le contrôle de la terre à tous les êtres humains, n'est-ce pas? Mais en plus, vous exercez le contrôle des fils de Dieu. Regardez. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Quand il parle de souffrance, il ne parle pas d'aller à la croix avec lui. Hein. Il parle de porter la souffrance de l'intercession. On va le voir. C'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on croirait que Dieu veut qu'on souffre avec lui? C'est complètement dénué de sens. Regardez, je vais juste vous montrer. Vous prenez votre siège comme ça, attendez voir. Vous êtes chez vous. Et là, vous commencez à exercer votre œuvre. Dieu vit en vous. Vous pouvez le faire assis, couché, ça c'est en vous. Hein. Dieu ne regarde pas du tout à notre position physique. Donc vous êtes chez vous comme ça. Vous devez régler un problème pour quelqu'un. Parce que vous, le truc intéressant qu'on va voir, c'est que quand vous priez pour autrui, pour régler que Dieu puisse intervenir dans leur situation, vous réglez votre propre problème. Vous allez voir. Donc il dit, si du moins nous souffrons avec lui. Quand il dit souffrir avec lui, on va voir de quoi il parle. Verset 18, regardez, c'est si intéressant. Car j'estime que les souffrances du temps présent... Donc là, il vient de parler des souffrances, de souffrir avec Christ. Il ne parle pas du fait d'avoir des souffrances dans ce monde-là. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Vous voyez un peu l'idée? Parce qu'on a toujours dit, oh, les souffrances du temps présent. Et les gens, ils assimilent ça à être virés du travail, par exemple. Ou avoir un problème avec son voisin, n'est-ce pas? Ou avoir un problème avec sa femme, son mari, ses enfants. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle des souffrances que nous souffrons avec Christ. Ils ne sont pas dignes d'être comparés avec la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Regardez verset 19, c'est merveilleux, merveilleux. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc, donc nous sommes censés nous révéler. Voyez? Vous savez, il y avait ce gars-là, un prince anglais. Son nom m'échappe. Un prince anglais. Il a marié une américaine. Ça doit être ça. Le prince Harry. C'est lui qui a été photographié complètement à poil une fois? À une fête et il prenait de la coke et des trucs comme ça? Ok. un prince qui se comporte comme ça. Non, vous imaginez? Est-ce que ça reste qu'il est quand même un prince? Alors, je ne sais pas s'il est toujours prince maintenant, mais j'imagine que oui. À moins qu'il ait renoncé à ses titres, ça j'en sais rien. Mais une personne peut être un prince et se comporter complètement à l'ouest du fait d'être un prince, on est d'accord? C'est la même chose qu'il dit là. Il dit la création attend que vous, les enfants de Dieu, vous vous révéliez. Verset 20. Car la création a été sujettée à la vanité. On avance juste un peu. Continuons, je vais faire ces 22, j'ai envie de montrer. Voilà, donc là, voilà. Attendez, verset 22. Merci. Donc il dit, car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Donc il parle de soupirer, et quand il parle de travail, littéralement, il parle de donner naissance. Vous saviez ça? Intéressant, ça. Il parle du fait de donner naissance. Vous êtes toujours là ou pas? Je vais vous montrer comment prier et donner naissance à ce que vous devez donner naissance dans l'esprit. Regardez, verset 23. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi. Oh oh! Donc il dit la création est en train de donner naissance à quelque chose. Et il dit non seulement la création, mais nous aussi, nous donnons naissance à des choses. Vous suivez jusque-là? C'est profond, hein? Aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Donc il y a un soupir qui se passe. Regardez, verset 24, il dit « Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il » Donc il dit qu'on espère quelque chose, une fois qu'on l'a, on n'a plus à espérer pour quelque chose. Regardez ce qu'il dit encore au verset 25. Oh, c'est profond. « Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec impatience. » Verset 26. Patience, pardon. De même aussi l'esprit. Ok. Oh, une seconde. Il dit de même. Une seconde. De même. Regardez bien. Ça veut dire qu'il est en train de lier ce qu'il vient de dire, ce qu'il dit maintenant, à ce qu'il vient de dire avant. De même. Qu'est-ce qu'il vient de nous parler là? Il vient de nous parler des souffrances de Christ. D'accord? Il vient de nous parler du fait d'enfanter quelque chose avec les douleurs de l'accouchement. Intéressant là, hein? Il parle de souffrance, il parle de douleur d'accouchement. Et dit de cette même manière, l'Esprit nous aide en notre infirmité. Quand une personne donne naissance, il y a une forme d'infirmité dans son corps qui se produit. Les choses s'ouvrent, vous voyez, le corps subit des mouvements. Ça paraît intéressant ça, hein. De quoi il parle? Pourquoi est-ce qu'il va dans une telle profondeur? Pourquoi est-ce qu'il va dans une telle profondeur de identifier les souffrances du Christ au fait? Parce qu'en fait, il a mis un gros paquet à l'apôtre Paul là, quand il parle hein, dans ce chapitre 8. Mais en gros, il vient d'identifier les souffrances du Christ avec laquelle on est censé prendre part. Et il ne parle pas de... Vous savez, il y a des gens qui parlent des stigmates, ça vous dit un truc? D'un coup, ils ont spontanément des, soi-disant, des apparitions, des meurtrissures de Christ. C'est pas juste ça. C'est pas de ça que l'apôtre Paul y parle quand il parle d'être lié aux souffrances de Christ. C'est pas genre d'être mis à mort pour son nom non plus. La Bible dit qu'on doit vivre pour lui, pas mourir pour lui. De quoi il parle? Parce qu'il vient de parler des souffrances du Christ. Et il dit, nous devons souffrir avec Christ. Et juste après, il dit, il y a les douleurs de l'accouchement dans la nature. Après, il dit, mais nous aussi, nous avons les douleurs de l'accouchement. Et après, il dit, nous aide dans cette infirmité-là. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même, notez bien qu'il a bien dit lui-même. Donc il va profond, il dit, l'Esprit lui-même, écoutez bien, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il vient de parler de la naissance. Il vient de parler du fait d'enfanter. Et là, il parle de nouveau de soupirs inexprimables. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Laissez-moi vous montrer. D'une manière pratique. L'Esprit de Dieu doit passer par vous pour faire ce qu'il a à faire sur terre. L'Esprit de Dieu doit passer par vous. Il n'y a personne d'autre par qui l'Esprit de Dieu peut passer, si ce n'est les êtres humains. Et je vais aller plus loin. Pour votre monde à vous, il doit passer par vous. Vous êtes le point de contact. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes le point de contact entre cette terre et le ciel. Et donc l'Esprit de Dieu parle, il dit, nous devons souffrir avec Christ. Et de quoi il parle? Ça répond à une question à beaucoup, parce que si on a la grâce, si on a la santé, pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir? De quoi il parle? Donc il dit, on doit souffrir avec Christ, suivez bien. Donc il dit, on doit donner naissance à des choses. Pourquoi est-ce qu'il parle de la douleur de l'enfantement, si ce n'est pour parler de donner naissance? Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient à Christ? Il naît de nouveau. Vous ne pensez pas qu'il y a un rapport avec le fait que le Saint-Esprit, son ministère, c'est d'amener les gens à Christ? Et qu'ils naissent de nouveau en Jésus-Christ? N'est-ce pas? Vous savez qu'on doit naître de nouveau. Naître de nouveau, ça ne veut pas dire retourner dans le ventre de sa maman et ressortir. Ça veut dire qu'on est né de Christ. Vous voyez un peu l'idée? Donc, le Saint-Esprit est celui qui accomplit ce ministère dans les gens. C'est lui qui tourne les gens vers Christ pour qu'ils naissent de nouveau vrai. Et dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est intéressant, pour ceux qui ont déjà vu une personne accoucher, vous avez déjà vu ? Et quand une femme, en général, quand elle accouche, elle a des espèces de soupirs inexprimables. Elle a... comme ça. Elle n'est pas en train de prier en langue. Hein. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être que ça peut arriver, mais je ne crois pas. Mais elle donne naissance à quelque chose. Et les douleurs de cet enfantement ne sont rien comparées au fait qu'elle vient d'avoir un bébé. Mesdames qui ont eu des bébés, est-ce que c'est vrai ? Le fait de donner naissance, ça surpasse l'ensemble même des douleurs après avoir ce petit bébé sur elle. N'est-ce pas ? Donc là, il dit... on doit souffrir avec Christ. Mais de quoi il parle ? Il parle de laisser le Saint-Esprit exprimer ses soupirs inexprimables à travers nous. Il ne parle pas du parler en langue, là. Non, 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 non. Il dit des soupirs inexprimables. Donc il dit, on se met à disposition de Dieu. Vous voyez, vous avez une situation à régler pour quelqu'un. Une connaissance à vous est malade, priez pour elle. Vous commencez à prier avec quelques langues, vous voyez ? Ensuite, vous vous mettez dans une position spirituelle. La position physique n'est pas si importante que ça. Vous pouvez être à genoux, vous pouvez être couché, vous pouvez être assis, debout. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez le Saint-Esprit donner naissance au travers de vous à ce miracle pour cette personne, à cette opération du Saint-Esprit pour cette personne, à la conviction de Dieu. Quand vous priez pour que les gens viennent à Christ, vous priez avec une telle intensité qu'on dirait que vous soupirez, vous voyez ? Comme si vous poussiez quelque chose. Pourquoi ? Et Dieu doit passer par vous pour faire ça. Dieu ne passera pas par lui-même, il ne va pas faire ça magiquement. Dieu va passer par vous pour faire ça. Et quand vous allez prier pour le salut d'une autre personne, quand vous allez prier pour la santé d'une autre personne, vous allez être dans une telle intensité que vous allez comme donner naissance et soupirer dans l'esprit. Vous voyez un peu l'idée ? C'est profond, hein ? Vous êtes là ? Et donc on se donne à Christ. Et c'est ça les souffrances que Dieu s'attend à ce qu'on fasse avec lui. C'est qu'on porte les souffrances de l'accouchement, comme il appelle ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a un moment très, très intéressant où une personne doit faire semblant comme d'avoir un enfant. Et il dit ses douleurs d'accouchement. Vous voyez ? Il parle du fait de donner naissance à quelque chose. Et bien sûr, c'est une similitude. Vous savez, Dieu est merveilleux. Donc vous êtes comme ça et vous enfantez des choses pour les autres. Et j'aimerais juste qu'on voie quelque chose de très intéressant. Si on peut prendre la Bible encore une fois. Prenons les Écritures. Genèse. Parce que là, on voit un truc d'intéressant. Genèse. Chapitre 20, les derniers versets par contre je ne les ai pas exactement en tête, donc tu peux mettre juste Genèse chapitre 20, j'ai dans les trois derniers versets. Merci beaucoup. Regardez, quand vous priez pour les autres, quand est-ce que vous priez pour les autres pour qu'ils soient sauvés ? Au lieu de toujours prier pour vos besoins à vous. Égoïste, c'est égoïste de faire ça. C'est très égoïste de prier que pour ses besoins. Numéro 1, ça veut dire qu'on est inconscient de ce que Dieu a fait pour nous, parce que sinon on ne prierait pas pour ses besoins. Regardez. Il y a un passage très intéressant des Écritures. Regardez. Et Abimélec prit du menu bétail, du gros bétail, et des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham et lui rendit à Sarah. Elle lui rendit à Sarah, sa femme, et Abimélec dit, « Voici mon pays est devant toi, habite où il te plaira. » Donc là, il y a un truc, juste pour le contexte. Abraham était une personne un petit peu bizarre. Il avait une femme qui était extrêmement belle. La Bible dit qu'elle était d'une beauté à tomber par terre. Au point qu'à 90 ans, je crois, elle avait... ou même 100 ans. Elle avait 100 ans, je crois, à ce moment-là. Ou 99 ans. Elle était d'une telle beauté, à 99 ans, qu'Abraham a dit aux gens, c'est ma sœur. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de se faire tuer pour qu'on prenne sa femme. Tellement elle était belle. Vous imaginez un petit peu ? Ça devrait être quand même quelque chose à voir. Une femme de 99 ans, d'une telle beauté, elle était magnifique. Et il disait, ouh ! Ils vont la tuer, ils vont me tuer et la prendre comme épouse. Donc il a dit à Abimélec, qui était le roi du pays, il a dit, non, c'est ma sœur, fais avec elle ce qu'il te plaira. Donc en gros, il a donné sa femme pour être violée. C'est vraiment un affreux ce qu'il a fait. Pourtant Dieu. Donc là, Abimélec, Dieu est venu lui parler, il lui a fait, non, 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 ne touche pas cette femme. Et Abimélec, il fait, mais Seigneur, je suis un homme juste. Et là, Dieu le fait, je sais, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu touches cette femme, mais rends-la lui vite. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à cause de ça, Dieu avait dû punir Abimélec avec l'infertilité. C'est-à-dire que personne dans le pays pourrait avoir d'enfant à cause de ça. Et qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham ? Un fils. Vous êtes là, jusque-là, vous êtes là ? Voici mon pays est devant toi, habite où il te plaira, verset 16. Et à Sarah, il dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. Voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et pour tous, ainsi elle fut reprise. Et Abraham prit à Dieu, et Dieu guérit Abimélec et ses femmes et ses servantes, et elles eurent des enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'homme de Dieu, la Bible dit qu'Abraham était prophète. L'homme de Dieu arrive, il prie pour les gens. Écoutez bien, vous êtes là? Il prie pour les gens, ok? Et ils ont des enfants. Tandis que lui, sa femme, attend toujours d'avoir un enfant. C'est la fin, hein, c'est juste. Encore un, pardon. Car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Maintenant, si on peut prendre le prochain chapitre, versets 1, 2 et 3. Rappelez-vous, je vous ai dit, les chapitres ne changent pas d'idée en soi, hein, c'est juste pour nous aider à nous orienter dans le livre qui est très grand. Les chapitres, n'est-ce pas? Mais le chapitre en lui-même n'est pas un changement d'idée, c'est une continuité. Donc là, regardez, Abraham il vient et il prie pour ses amis, il prie pour ses gens. Et Dieu le réouvra la matrice, regardez. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Notez bien, verset 2. Et Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc il impose les mains à ces gens. Hop, soyez guéris de cette infirmité. Et les gens sont guéris de l'infirmité. Et juste derrière, parce qu'il a prié pour eux, pour qu'ils puissent avoir des enfants, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, sa femme tombe enceinte. C'est beau, hein? Donc ça veut dire que Dieu, quand vous priez pour les autres comme ça, ça veut dire que Dieu, ultimement, va passer. Si Dieu peut passer à travers de vous pour guérir quelqu'un, pour amener quelqu'un à Christ, pour changer les finances d'une situation d'une personne, soudainement vos finances vont commencer à aller mieux. Vous allez voir, c'est quelque chose de profond. Vous êtes toujours là? Alléluia. Si on peut prendre Job, le dernier chapitre. Job, je vous dirai exactement parce que... Ouh, c'est des choses qui doivent vraiment nous réjouir, ça. Ça veut dire que Dieu a en votre tête votre prospérité. On va prendre l'ensemble, mais on ne va pas tout lire. En fait, on peut prendre la partie du verset 7, s'il te plaît. Ah, pardon, Job, excuse-moi. Job 42, verset 7, oui. Regardez, donc là, il y a Job qui a tout perdu parce que le diable est venu tout lui voler. Donc il dit, « Et il arriva après que l'Éternel eut dit ces paroles à Job, que l'Éternel dit à Éliphaz, le Thémanite, « Ma colère s'est enflammée contre toi. » Et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Quand il dit, tu as dit n'importe quoi à mon sujet. Et les gens, même des gens qui sont enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, qui disent n'importe quoi au sujet de Dieu, vous savez ça? Et qu'est-ce qui se passe au verset 8? Et maintenant, donc là, regardez, je vois. Et mon serviteur Job priera pour vous. Intéressant. Car lui, je l'aurai pour agréable, afin que je n'agisse pas avec vous selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Regardez ce qui se passe, verset 9. Donc voilà, allèrent et firent comme l'Éternel avait dit, et l'Éternel eut Job pour agréable, ça veut dire qu'il a pris en considération ce que Job voulait dire, verset 10. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job. Donc Job a prié pour ces mecs, que Dieu rétablisse ce que Dieu avait pour eux, qu'ils arrêtent d'être dans leur folie, et qu'est-ce qui se passe juste derrière? Job se voit restaurer tout ce qui lui avait été volé. Vous voulez voir la restauration dans ce qui vous a été volé par le diable? Priez pour les autres. Laissez le Saint-Esprit passer au travers de vous. Et quand il peut passer au travers de vous d'une telle manière, vous allez voir dans laquelle victoire vous pouvez marcher. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez compris un petit peu? Nous poussons des soupirs inexprimables. Nous laissons le Saint-Esprit se visualiser à l'intérieur de nous. Et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire dans ce qui est juste et dans ce qui est beau. Gloire à Dieu. Juste enlever ce truc si vous permettez.